Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à ce nouvel épisode de Star Wars en direct, édition The Clone Noir. Dans cette 34e émission, nous allons discuter du 17e épisode de la seconde saison de The Clone Noir, Bounty Hunters. Voici un petit synopsis de l'épisode. Obi-Wan, Anakin et Ahsoka vont former un partenariat improbable avec 4 chasseurs de plumes pour aider des familles locaux à combattre Hondo Onaka et sa bande de pirates. Il a été écrit par Carl Ellsworth et réalisé par Stewart Lee. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voici notre discussion. Bien, ben bonjour tout le monde pour une nouvelle émission. Alors, comme d'habitude, je suis rejoint par Louis. Salut Louis.
Salut.
Et Thomas. Salut Thomas.
Salut tout le monde.
Alors, on peut déjà attaquer toute la petite phrase. Ça c'est fait.
Ouais, on va se dépêcher parce que, vu la gueule de l'épisode...
Donc, le courage fait les héros, mais la confiance construit l'amitié.
Allez Thomas.
Alors le courage, bien entendu, ça a été le courage de nos petits fermiers qui cultivent donc du nisiline. Donc ils appellent ça des fermiers féluciens, même si c'est pas des vrais féluciens. Voilà, ils avaient du mal à prendre leur responsabilité, à lutter contre l'oppresseur, et puis tout d'un coup, ils ont été des vrais héros et ils ont pris confiance en eux, tout ça. Ils ont voilà.
C'est la magique quoi.
Analyse philosophique de Clone Noir.
Ah, c'est le truc, c'est pour faire croire que les faibles peuvent devenir forts.
Il y aura un autre clin d'œil là-dessus.
Toi aussi, si t'es nul, tu peux réussir dans la vie. Allez, vas-y.
Mais n'empêche, l'histoire justement des petits fermiers qui prennent encore les armes, c'est du connu dans le cinéma américain de toute façon.
Tout à fait. À la base, c'est une référence, ils l'ont mis au tout début, à Akira Kurosawa, donc qui avait fait son film Les Sept Samouraïs. Akira Kurosawa, il avait fait un film qui s'appelait Les Sept Samouraïs, et justement il le souligne au tout début, et c'est clairement ils reprennent son scénario, et c'est un méga clin d'œil, et là ils pouvaient pas ne pas placer la référence dès le début.
Pauvre Kurukuwa, à mon avis, il a fait un truc qui était 10 fois mieux que cette bouse. Hein.
Ah bah alors le film il est énorme, il doit faire plus de 3 heures, c'est un truc extraordinaire, et ça a influencé. Après t'as eu Les Sept Mercenaires, Les Sept Machins, tout le monde
les
a fait un set. Un 7 bidule, non, je sais pas si les 7, non, c'était pareil. Mais en fait, en gros, ce film des 7 samouraïs, il a été repris par tous les grands classiques, que ce soit les Far West, je sais pas, les barbares, les conneries. Et du coup, il y a même des gars qui ont fait un fan film qui s'appelle Seven Jedi, et qui, à mon avis, doit être un plus ou moins inspiré des 7 samouraïs aussi. Et ça, c'est un film qui est vraiment cultissime au Japon. Et ça reprend cette histoire où, justement, les fermiers qui sont tout le temps pillés par des méchants, vont chercher justement des samouraïs qui sont des sortes de plus ou moins de chasseurs de primes, on pourrait dire, puisqu'ils se font payer pour des services d'assassinat, de protection, de machin. Et là, on reprend la même chose avec les Bounty Hunters.
Tout ça pour dire que si le film Sept Samouraïs est un film culte au Japon, cet épisode sera loin d'être culte pour nous.
Ah, ouais. Ça c'est la phrase de conclusion, on peut pas encore le dire.
Suspense. Ouais, non mais je crois qu'avec cette phrase-là, en fait, ils peuvent tout de suite arrêter d'écouter l'émission parce qu'ils savent tout de suite que c'est de la merde.
Moi, évidemment, comme j'ai pas vu les Akira Kurosawa, moi j'ai pensé à 2 autres films américains. J'ai pensé à Cœur de Dragon, pour ceux qui l'ont vu. Oui, là aussi, c'était les...
Mais je vois pas le rapport.
Non, mais je veux dire, c'est la même chose, c'est les petits fermiers et tout ça qui vont prendre les armes pour combattre les chevaliers. Et ça m'a fait aussi penser au premier film Robin des Bois avec Kevin Costner. Là aussi, c'est les... Ils entraînent...
Ouais, non,
ils
mais attends, à chaque fois que t'as des pauvres et t'as des riches, ça te fait penser à ça. Alors en plus, toi, tu dois voter communiste, c'est sûr. Mais... non, faut arrêter, ça ressemble pas du tout à Robin des Bois.
Non, mais je veux dire dans le sens où ils entraînent justement des gens
qui ont
pas envie de...
Tu comprends ce que tu fais, t'es en train de comparer... Robin des Bois avec Kevin Costner qui est cultissime comme sans doute cette samouraï, je connais pas, avec ce truc.
Ouais, mais bon, c'est pas pour
ça. Ça ressemble pas du tout en plus, quoi. Je sais pas. Là, tu fais ton Thomas, arrête. Ouais, non, mais arrête, quoi. Là, tu manquais, tu voulais dire quelque chose, mais tu savais pas comment le dire, quoi. Donc, tu as trouvé des trucs. Alors, au niveau scénario, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire sur le scénario, cher Thomas?
D'habitude, donc, on attaquait souvent par le visuel. Vous voulez pas qu'on fasse le visuel avant?
Non, je veux faire le scénario. C'était tellement nul à chier que... Et que l'autre, il se marre comme une baleine, ou quoi? Il y a qui va parler, ouais. C'est ça?
Non, mais moi, ce qui m'a surtout surpris dans l'épisode, c'est comme comme je l'ai vu à la sortie, enfin, à la date anglaise, c'est-à-dire presque une semaine avant les Américains, je n'avais pas du tout lu le petit article du site officiel qui annonçait le retour de Hondo Onaka, et j'étais vraiment très surpris de le revoir, j'étais bien content de le revoir, ce personnage.
Ah ouais, moi aussi, hein.
Et je trouve que là,
au moins, on est sûr qu'avec le retour de Hondo, que ce personnage restera une calamité dans l'histoire de The Clone Wars, c'est-à-dire qu'on le verra chaque fois dans les épisodes complètement pourrables.
Alors, moi justement, j'étais un peu sceptique de le voir revenir quand j'ai vu le synopsis. Puis finalement, j'ai trouvé que qui passait bien dans l'épisode, qui s'intégrait pas mal. Et finalement, c'est cohérent, quoi. Bon, c'est des pirates, ils viennent piller les gens et ils sont là pour ça, quoi. Donc, moi finalement, je la trouve justifiée cette présence. Et tout à l'heure, donc lui disait que justement, on le revoyait à chaque fois. Je trouve pas que ce soit forcément vrai parce que justement on l'a vu que dans une seule fois dans la saison 1 et là on le revoit
une fois. C'est le meilleur épisode de la saison 1, quoi.
Ah bon, on est d'accord que cet épisode de la saison 1 était honteux. On est d'accord là pour une fois.
Ah voilà, bah comme celui-là, quoi.
Et celui-là, je l'ai trouvé génial.
Oh là là, quelle horreur, quoi. Non, mais ça, c'est l'euphorie d'avoir un gosse qui te fait dire des choses comme ça. C'est pas possible.
Non, j'ai trouvé top et j'ai vraiment vu les références aux 7 samouraïs que j'ai trouvé ça vraiment très bon.
Non, mais attends,
il y a d'autres choses que
déjà
j'ai
aimé. Déjà, t'arrives sur Feluccia, donc Feluccia qui est une planète
magnifique.
On est d'accord.
Et vachement bien réussi, on y reviendra au niveau visuel.
Voilà. Mais, je voudrais quand même dire quelque chose parce que on a une Feluccia qui a été, donc imaginé par Lucas, mais aussi qui a été repris dans The Force Unleashed, le jeu vidéo. Ouais. Et là, on a pu voir toute une population de Feluccians et tout. Et qu'est-ce qu'on nous fout, là? On nous fout des espèces de marmottes sans poils.
Ouais,
qui font de l'agriculture. Encore une espèce hermaphrodite qu'on connaît pas, là, qu'ils ont été pêchés je ne sais où. Et qui ressemble à rien. Non mais, franchement...
Alors justement, j'ai essayé de voir un petit peu... justement, ce que c'était que cette espèce. Alors, ils les appellent, comme j'ai dit tout à l'heure, les Feluciens fermiers. C'est-à-dire, t'as les Feluciens normaux, les classiques, les superbes, là, bestioles qu'on a vues dans The Force Unleashed. Puis t'as les Feluciens fermiers, c'est même pas
les Feluciens fermiers, ils ont perdu les plumes et les poils et ils ont été bannis, quoi.
Ouais, je sais pas trop ce que c'est que ces bestioles. Alors, je pense qu'ils vont leur donner un vrai nom d'ici pas tarder. Je pense que c'est le Wikipédia qui leur a donné ce nom en attendant. C'est vrai que, bon, bah, ils étaient pas encore recensés sur Felucia.
Tu remarques, t'as l'impression que c'est, qui ressemble un peu à Terracine Oubliée, tu sais, notre Jedi à la haine de Planète. Ça se trouve, c'est une reine. C'est une reine Feluccienne qui pond des trucs, là, et puis qui les envoie sur Feluccien.
C'est quand même différent.
Ouais, ils vont nous mettre un petit redcon et puis ils vont nous dire que c'est une espèce qui a immigré sur Felucia, comme tant d'autres. Hein. Faut voir que sur Felucia, il y a un paquet d'espèces immigrées, donc voilà, ils vont les rajouter.
Oui, c'est sûr. Le truc, c'est qu'une vieille forêt et on va me faire croire qu'il y a des fermiers, qu'il y a des technologies high tech, alors que c'est qu'une planète pour bûcherons, quoi.
Bah écoute, cette planète, avant que The Clone Wars arrive. Il y avait donc les Gossam, donc qui avaient immigré sur Felucia. T'avais des humains, des Twi'lek.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Les Gossam n'ont jamais immigré sur Felucia. Les Gossam, donc les Gossam, pour ceux qui veulent savoir, c'est ceux qui font partie de la guilde du commerce, hein. On voit avec le long cou, etc. Et donc les Gossam, ils n'ont pas migré là-bas. Hein. Les Gossam, ils ont fait des attaques commando, c'est tout. Et après, il y a eu une mission qui s'est passée avec Aïda Sekoura, etc.
Non, elle a été colonisée, justement, Felucia, par les Gossam. Mais il y a très longtemps, en moins 27 000 ou un truc comme ça. Donc à la base,
ils sont plus, quoi.
Bah, disons qu'à la base, ils sont pas de Felucia. À la base, les vrais Feluciens, c'est les gars qu'on voit dans The Force Unleashed, là, les espèces de bestioles, là, toutes bleues, là. Donc en fait, les Gossam, c'est une espèce immigrée. Tout comme t'auras aussi des Itoriens, Et même le sarlacc qu'on voit dans The Force Unleashed, c'est une espèce qui a été immigrée. Je sais pas d'où il est arrivé.
Ils l'ont planté.
C'est pas une espèce. Ouais, ils l'ont planté, quoi.
Comme tu ils ont pris un œuf et puis ils l'ont mis,
Ils ont pris un œuf
sur Tatooine, ils l'ont amené sur Felucia.
Tu les vois, les espèces originaires de Felucia, elles sont un peu barrées, elles sont toutes dans le style des Féluciens. Parce qu'après, t'as les Féluciens, tu sais, t'as toutes les bestioles, plus ou moins dans un peu, avec des gueules de papillons, là, dans le même style, qui là sont des espèces originaires de Felucia. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est pas les Féluciens, on sait pas ce que c'est, par contre. Ils ont pas de nom, pour l'instant.
Non, c'est un truc qui pue, on va pas le savoir.
Félucien de Farmer.
Il y a des trucs intéressants, là, qu'ils ont fait quand même. Qui était tout pratiquement en début, notamment lorsqu'ils sont attaqués par les chasseurs vautours. Là, tu sens un petit jeu qui existe de questions-réponses, enfin de taquinerie entre Ahsoka et Anakin, qui était assez intéressant. Et il y a un truc aussi qui m'a fait hurler de rire quand ils arrivent au moment donc ils arrivent chez les fermiers et puis ils sont entourés par donc tous les chasseurs de primes. Et Chasseur de Prime dit ça va pas faire un combat équitable de Jedi contre sept mercenaires. Et t'as Ahsoka qui dit comment ça de Jedi, je suis là. Et l'autre qui dit on compte pas les nains. Ça c'était vraiment mais c'est merveilleux quoi. Ça restera, c'est vrai. Elle est complètement difforme.
Sinon ce que j'ai remarqué c'est
fait plaisir.
Ce que j'ai encore remarqué c'est qu'encore une fois ils font atterrir, ils font cracher Anakin. Chaque fois on dirait c'est vraiment sa spécialité, presque. On croit
d'ailleurs, il le chambre pas mal là-dessus.
Bah ouais, mais normalement, on n'arrête pas de dire que c'est un grand pilote et tout ça, mais ouais. Chaque fois qu'on le voit avec des vaisseaux, chaque fois qu'il s'est un peu attaqué, il s'écrase, ce gars. Ouais. On dirait qu'il sait pas, c'est pas tellement contrôler ses vaisseaux pour éviter les tirs. Hein.
Et d'ailleurs, j'ai pas bien suivi. Par contre, le seul truc, la question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'ils foutent au début sur Felucia pour la station médicale. Est-ce que quelqu'un pourrait me réexpliquer un peu plus précisément?
Ben en fait, c'est que les séparatistes ont détruit les stations médicales qui étaient en orbite autour de Felucia.
D'accord.
Et donc ils ont voulu enquêter. Et évidemment, ils se sont fait attaquer.
Pourquoi ils les ont foutus là, leur station médicale, justement?
Ils doivent en foutre un peu partout dans la galaxie, je pense, pour faire des genres de hub, pour s'arrêter, pour un peu, pour pas qu'ils aillent à l'au bout de la galaxie pour aller soigner, c'est tout d'un coup, il y a eu une bataille. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait quand même eu une bataille il y a pas longtemps sur cette planète-là, ils ont dû se dire, on en a besoin, ils ont foutu une station médicale là, quoi, pour avoir une sorte de base.
D'accord. Sinon, ce que j'ai noté aussi par rapport au Bounty Hunter, c'est que pour une fois, ils sont présents, mais on voit qu'ils font pas que des missions d'enculés, quoi, un petit peu. D'ailleurs, pour une fois, ils sont payés, mais ils font un truc bien, quoi. Parce que d'habitude, souvent, quand tu prends un chasseur de primes, c'est que tu veux faire un truc saligo, quoi. Tu veux faire tuer quelqu'un, tu veux piquer des je sais pas quoi. Et d'ailleurs,
Le problème, c'est un truc comme ça, ce n'est pas du tout justement dans la. C'est plus vraiment des chasseurs de primes, donc ça m'a un peu étonné de la.
Bah si, t'as des primes sympas de temps en temps.
Ouais, mais je m'attendais presque à ce qu'ils acceptent la prime de Hondo quand il a dit je vais doubler, parce que d'habitude, plus les chasseurs de primes, c'est le plus offrant. Ouais.
Mais en fait, donc, c'est peut-être par rapport aux. Les contrats des chasseurs de primes, c'est une fois que t'as signé ton contrat, faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, combien même on te repose au-dessus, normalement, tu sais, ils ont toute une charte des chasseurs de primes à respecter.
Ouais, bon.
Tu sais, il y a des trucs, quand t'as le premier qui a trouvé la cible, il a pas le droit de la prendre à l'autre, il y a plein de trucs, ils en parlent un peu dans les jeunes chevaliers Jedi, notamment. Et, si ça se trouve, ça fait peut-être partie de leur code d'honneur, je dois pas, justement, lâcher mon contrat. Et d'ailleurs, ouais, il y a une petite réflexion, la chef, là, des chasseurs de primes, elle en parle avec Obi-Wan, elle lui dit, vous voyez, des fois, on fait des trucs sympas. Et moi, ça m'a fait penser aussi un peu à un comics. Louis, tu vas peut-être te réveiller du coup. Vous savez le comics où il y a Jango Fett je crois que c'est Zamwezel qui sauve Coruscant. Vous savez quoi, il y a Rael Pouf, il se fait déglinguer à la fin.
Ça m'étonne pas que tu aies pensé à ça, c'est du même niveau.
Bah c'est parce que c'était une mission. Ouais, ça m'avait choqué un peu que Jango Fett soit si gentil que ça. Mais du coup, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est-à-dire les gentils Bounty Hunter. Je me suis dit, tiens, bah, c'était arrivé déjà une fois, quoi. Voilà, voilà. D'ailleurs, Obi-Wan est pas super chaud pour aider nos Felucian Farmers là au départ. Hein.
Ouais, mais il faut. Bah, ouais, mais.
Pas mal, t'as vu leur tête.
Ah, il arrête pas, Louis. Hein.
Ah, mais attends.
Une fois qu'il est lancé.
Attends, faut pousser un vrai coup de gueule contre cet épisode parce qu'il a quand même ras-le-bol de se foutre de la gueule du monde. Tu vois, ils vont entraîner des espèces de marmottes sans poils à combattre des chasseurs de primes qui se pensaient être les plus redoutables à coups de lance-pierre. Tu les vois pas avec leur lance-pierre, t'as Ashoka qui lui donne un lance-pierre, qui lui dit, hey, vas-y, amuse-toi.
Bah, d'ailleurs, ce que j'ai pensé, c'est que
ça m'est...
D'ailleurs, ce qui m'a étonné dans l'épisode, c'est que Hondo se déclare aussi vite à la fin, parce qu'il aurait très bien pu revenir deux jours plus tard, et les Jedi étaient plus là, les chasseurs de primes non plus, il restait plus que les petits fermiers. Ouais. Là, il aurait pu se les faire en un rien de temps. Même avec leur pic et tout ça, on voit qu'il s'en fout un peu, quoi, au final.
Mais dans la bataille, par contre, c'est pas quand même nos petites marmottes qui font tout le boulot, hein. Ceux qui font le boulot dans la bataille, c'est avant tout quand même les Jedi et les chasseurs de primes.
Ah oui, c'est pour ça. Le Hondo qui abandonne à la fin, il s'en va en disant que c'est plus profitable. Il aurait fait semblant de partir et serait revenu deux jours plus tard, par exemple, il aurait pu facilement vaincre les fermiers. Hein. Ça aurait pas été compliqué pour lui.
Eh oui. C'est d'ailleurs, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse quand même sur nos quatre chasseurs de primes, parce que je les ai trouvés relativement sympas, les quatre. C'est vraiment ce qui m'a fait aussi apprécier cet épisode, en dehors de la ref ou cette samouraï. C'est vraiment ces quatre chasseurs de primes que j'ai trouvé sympas.
On va en parler dans le visu.
D'accord, on y revient dans le visu alors. Très bien.
Bon, peut-être caler même carrément.
Bah, ça nous fait notre transition entre le visu et le scénario.
Allons-y,
voilà.
Alors, on commence quand même par le number one, c'est Embo. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment mon préféré.
Il est stylé, celui-là.
C'est celui avec son casque. Faut me décrire le truc, parce que moi, retenir les noms...
Alors, Embo, c'est celui qui a le chapeau à la cacrouque, voilà. un peu chapeau japonais.
On dit cacrouque, on dit
cruc. Tu dis comme tu veux.
C'est une BD.
Bah, tu vois, personne n'est d'accord.
Le
wifi avec le chapeau chinois,
là. Il faut sortir de frisbee.
Voilà,
donc...
Ça,
je suis d'accord, mais pour ça je trouve qu'ils sont quand même très bons parce qu'ils arrivent à trouver des bons designs à chaque fois pour leurs chasseurs de primes, un petit peu comme Cad Bane et tout, et on arrive vraiment à avoir des trucs sympas.
Ce qui était pas mal, c'est ouais, à mon avis là ils ont choisi le chapeau du samouraï justement pour faire la référence aux 7 samouraïs. Et on avait le Cad Bane, c'était un peu ambiance cowboy, celui-là c'est ambiance samouraï, ils ont tous un style un peu inspiré de quelque chose et je trouve ça vraiment énorme. Et comme tu disais là, quand il lance son chapeau là pour attaquer, il est hyper vif, hyper charismatique. C'est vraiment le deuxième chasseur de primes après Cad Bane pour moi de The Clone Wars. Et c'est vraiment le gros plus de cet épisode. Et puis je sais pas si vous avez vu son arme, une espèce d'arbalète un peu à la Chewbacca.
Vraiment c'est la même cool. D'ailleurs.
C'est la même.
Bah je me demande. C'est comme la fille la Zabrak qui a la même exactement le même pistolet, le même blaster que Boba Fett.
D'accord.
C'est le même.
Ah, le même pistolet que Boba Fett.
Ouais, j'ai vu ça sur le site officiel.
Et par contre, donc, notre fameux Kyuzo, au début, moi, j'ai cru que c'était un Skrilling, qui avait juste un petit masque. Et en fait, non, c'est un Skrilling, tu sais, c'est, comme celui qu'on avait vu dans l'épisode 1, qui se fait flinguer. Tu sais, c'est des gros avec des espèces de ils sont verts. T'en vois un dans l'épisode 1. Bref, c'est pas eux, c'est une nouvelle espèce, à nouveau, c'est une espèce qu'on appelle les Kyuzo.
C'est le petit, là, c'est le...
Non, ça, je te parle de Embo. Embo, c'est un Kyuzo.
Hein?
Voilà, c'est une nouvelle espèce, encore.
Ouais.
Voilà. Des choses à dire encore sur ce personnage?
Non, je crois qu'on l'a fait le tour. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'autre, c'est le petit, là.
Ah, donc il s'appelle Seripas.
D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est encore une morale à deux balles américaine, c'est-à-dire, sa grosse machine, elle a du mal à réussir son coup, mais c'est presque lui, le petit gars, quand il en sort, qu'il arrive à vaincre le chasseur de primes.
C'est quoi, je trouve qu'il y a un certain clin d'œil, à Men in Black.
Ah bah oui, ça je l'ai même noté moi-même. Ça, c'est sûr.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu, cette espèce d'alien asthmatique qui ressemblait à rien.
Oh putain.
Alors, bah attends, tu peux pas dire qu'il ressemble à quelque chose. T'as un super truc qui a une super bonne idée en soi, le truc sourd, t'as un truc qui pue.
c'est désolé, quoi.
Non mais voilà la déception.
C'est parce qu'il est tout petit.
T'as une espèce d'armure, le mec c'est un gros furieux. En plus, il traite à choc cannelle, donc il a tout pour plaire. Et là,
mais il fait exprès,
t'as
ça justement.
Qui s'ouvre. Tu t'attends à voir un truc de fou. Mais non, t'es une espèce de petite merde, là, qui arrive même pas à respirer.
Ben oui, c'est bien pour ça qu'il a une armure.
Et c'est pour ça qu'il charrie Ahsoka, justement, parce qu'il a l'impression, ben de... oui. Il a l'impression d'être énorme dans son armure.
Ben voilà, il essaye de rattraper un peu sa frustration de tous les jours.
Un peu comme ça.
J'allais parler de toi, justement, qui est souvent en train d'attaquer. J'allais me dire, tu vois, tu t'es pas reconnu dans le série.
Trop tard, c'est moi qui l'ai dit d'abord.
Et par les contre, gamins. Au début, avant que je vois justement que ça s'ouvrait cette armure et qu'il était si petit que ça, j'ai trouvé qu'il était assez mal modélisé. Je me disais putain, c'est bizarre comme personnage. Il est trop comment enfin l'armure, je la trouvais trop.
Il est trop moche.
Trop peu défini, trop bâclé. Puis en fait, quand j'ai vu vraiment que c'était un robot, parce que moi je croyais que c'était un mec avec un casque. Ben, j'ai compris pourquoi il était assez peu développé graphiquement.
Non, c'est pas ça que t'as dit. Tu dis que quand t'as vu le mec à l'intérieur, finalement, l'extérieur était pas mal.
Mais non, je me suis dit que je comprenais pourquoi il est... Non, au contraire, je trouve que c'est la deuxième bonne idée, je veux dire, dans les chasseurs de primes. Je trouve vraiment, vraiment sympa, ce perso. Bon,
ah bah par oui, contre. Parce que, en dehors de ça, sinon, ils sont très classiques, les autres.
Hein. Vous avez vu, d'ailleurs, quand ils partent, du coup, il a plus son armure, il est redevenu tout rikiki à côté des autres, quoi. Et du coup, la chef des chasseurs de primes, donc Suji, elle dit, bon, bah, de toute façon, là, je vais avoir besoin de me refaire mon équipage entre le Humbo qui est tout cassé, lui qui a plus son armure, et l'autre qui est flingué, ils sont un peu dans le beau drap, quoi.
Alors, on va arrêter de parler de ça, on va parler
il nous en reste deux à parler.
Ouais, on va pas s'éterniser sur la...
Ah bah si, on va quand même les présenter vite fait.
Ah, y a un vieux Zabrak qui pue, et puis un autre truc, là.
Alors, y a une Zabrak femelle, donc ça, je trouve ça bien. Qui est assez charismatique, qui passe bien, qui a des côtés gentils.
Elle est banale, je trouve.
Même un asticot est charismatique.
Oh non, j'ai
trouvé banale.
Ah ouais, voilà. En tout cas, mais je suis entièrement d'accord avec Henri.
Tu l'as trouvé banale.
Là, faut le noter, là, il est d'accord avec moi, là.
Ah non, mais c'est tout qu'on voit partout, c'est pas la peine de s'appesantir là-dessus.
D'accord. Mais c'est tout ce que j'avais à dire, et sinon...
Encore le mec qui pue dans son armure, il est original.
Et on a sinon l'autre, c'est Rumi Paramita, donc c'est la femelle qui se fait flinguer à la fin. C'était un nouveau personnage, et d'ailleurs d'une nouvelle race, qui s'appelle les Frank. Et dans cette race, ils sont hyper squelettiques et hyper grands, voilà. Et bon, on l'aura pas vu longtemps parce qu'elle s'est fait déglinguer au bout de 10 minutes, donc comme ça, c'est fini. Et puis on a encore revu aussi le petit Muck Monkey, là, vous savez, le petit lézard de Jabba le Hutt.
C'est un autre,
la même race. Ouais, sais bien. Donc voilà, c'était rigolo.
Sinon, du côté visuel, je voulais aussi noter
Non, c'est Lucia, Lucia d'abord.
Non, moi je voulais juste rapidement un petit truc rapide, c'était, je voulais parler des boules pour les, quand ils se font éjecter.
Ah oui.
Ah, j'allais le dire aussi.
Bah voilà, je t'ai pris de vitesse. Je sais pas pour vous, mais certains peut-être auront vu le film, si je me trompe pas, Planète Rouge, avec Val Kilmer. Non, bah à un moment ils se font éjecter, il y a quand même comme ça une sorte de capsule de sauvetage qui entourait aussi de boules pour amortir la chute. Ça m'a fait penser un peu à ça, parce que dans le film, ils rebondissent exactement pareil sur l'herbord des rochers sur Mars et tout ça.
J'ai trouvé ça assez sympa dans l'idée. Maintenant, ça m'a fait penser, tu sais, aux espèces de monstres, là, qu'ont les gamins et qui sont des boules, et quand ils les jettent par terre, ça se transforme, là.
Hein? Moi, souci, c'est quand même... ça peut faire aussi penser, c'est pour ceux qui ont vu le film Speed Racer, le nouveau, là. À un moment, quand les voitures explosent, ils se font entourer d'une boule de...
Ah non, mais nous, on regarde des films, on regarde pas des trucs,
Ouais, bon, en tout cas, quand les voitures se font exploser, ça enveloppe les pilotes dans une sorte de boule comme ça, un peu, et qui arrive à rebondir et tout ça, ça fait penser un peu à tout
Marc,
ça.
Marc, pour le coup, on n'est pas bien placé pour parler, nous, on regarde The Clone Wars.
En tout cas, c'est original, quand même.
Bon, bah, allez, parlons de Felucia avec...
C'est original, comme idée.
Felucia, non, tu te tais, toi. Ça suffit, hein. Sinon, pampan. En méo. Alors, Felucia, j'ai trouvé que c'était une planète qui avait été très très bien respectée au niveau visuel, et encore plus respectée au niveau visuel qu'ils avaient mis des rancors. Et ça, on ne saura jamais les remercier suffisamment. Heureusement, pour une fois, ils ont pensé à respecter certaines choses. Alors, ouais, on n'a pas les Feluciens, Au début, j'étais très euphorique quand j'ai vu les rencors, parce que je me suis dit, tiens, on va voir la Félotia. Ben là, on a eu énorme note. Bref. Félotia est pas mal, ils ont respecté les rencors, je trouve ça assez sympa.
C'est moi qui devais dire un truc sympa comme ça sur Félicia,
non. Non, parce que je crois que c'était assez rare de dire quelque chose de bien sur cet épisode.
T'as un autre cahier sur Félicia ou on peut passer?
Attends, moi si, sur Félicia, je voulais juste rajouter que... bien sûr. Que vraiment, c'était même aussi quand ils arrivent, vous savez, quand ils vont se prendre le rocher, il est hyper bien modélisé. Et vraiment, les plantes sont hyper bien rendues, et vraiment, on a vraiment retrouvé l'ambiance de The Force Unleashed.
Ça donne envie de devenir jardinier, gars.
De devenir un Felucian Farmer, donc.
Ouais.
Mon rêve, c'est d'être une marmotte, lui.
Une marmotte sans poils. Et qui a été procréée par Terra Sinubé, avec son haleine de poney, donc. T'imagines le truc? Ah, mais, le truc, The Clone Wars, ça se transforme en film d'horreur, quoi.
Ah ben la haleine de poilier, là, ça va être la phrase pour résumer les épisodes de Star Wars en direct de l'année là. Ouais.
Ah.
Ça apparaît une fois par épisode carrément.
Oui. Il est content de sa trouvaille. Il
oui, ouais, voilà, exactement.
Snoopy était tellement merveilleux, je veux dire, ils ont dû employer un clochard pour trouver pour faire le scénario ce jour-là, pour faire Light Server Lost, parce que c'était tellement pas cherché. Au niveau des visuels, c'était tellement peu terrible aussi que...
Sinon, juste pour reparler du vaisseau, comment ça se fait qu'ils n'ont pas le Twilight, là? Ils avaient peur de le planter ou quoi?
Sûrement.
Il vient d'où, le vaisseau?
Parce qu'ils se sont dit que s'ils utilisaient le Twilight et qu'ils mouraient, enfin qu'ils l'écrasaient, ce serait un peu emmerdant. Donc, pour les scénarios, l'Iland...
Oui, mais donc du coup, dans l'épisode, comment on justifie la présence de ce vaisseau-là?
Eh ben, ils avaient envie de changer de vaisseau, tu vois, tout est possible, et on fait encore plus simple que toi d'habitude.
Sinon, ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le visuel, c'est la base pour les chasseurs vautours.
Ça, j'étais vraiment... Oui, ça, c'était ça, super intéressant.
Ah oui, c'était... Je trouve que c'était très, très bien rendu.
Ah, moi, je pense que tout le monde va m'aimer après cette critique bien objective de l'épisode.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode visuellement, c'est vraiment l'exploitation agricole, que ce soit au niveau des bâtiments, quand on voit les maisons, les hangars, et puis quand ils récoltent le Nizilin, justement, tous les véhicules agricoles... Attends, je finis. tous les véhicules agricoles qui ont été modélisés. Eh ben, je veux dire, non, mais ils ont fait l'effort de modéliser plein de véhicules, plein de barrages.
Les véhicules,
et c'est chouette.
Les véhicules, vas-y. Pas. Mais t'as vu l'espèce de vieille moisson toute pourrie qu'ils font? Les trucs pour faire les bottes de foin, là? Ouais, le mec, il s'est pas fait chier, il a fait un cube, et il a mis des herbes dessus. C'est moche, c'est vilain. Ça, c'est le truc le plus mal fait que j'ai vu depuis tout.
Non, je te parle de l'ensemble de l'exploitation agricole. Je veux dire, c'est un tout. Enfin, je le vois comme un tout qui fait que t'as l'impression que c'est un truc cohérent, à peu près complet. Parce que t'as le hangar, t'as les petites maisons avec les petits détails, les petites vitres, les machins, les arrondis. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance et je veux dire,
ça donne envie d'être campagnard. Hein.
et d'être un castor, rajoute aussi.
Non, pas un castor, une marmotte. C'est quand même un temps soit peu différent. Tu vois, parce que je suis pas sûr qu'un castor arrive à se servir d'un lance-pierre.
Cours de biologie.
Ouais.
Sinon, on peut peut-être passer maintenant au vrac.
Allez. Tu as des choses à dire encore?
J'ai le petit truc à dire, effectivement, il y a...
Incroyable.
Déjà, je voulais parler de l'histoire des crédits républicains.
Tu vas y arriver.
Ouais, j'y suis arrivé. Chaque fois, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils ont cours nulle part, on dirait, les crédits républicains. Chaque fois qu'ils en parlent, chaque fois qu'ils veulent en donner, à chaque fois, tout le monde les refuse.
Non, mais il y a autre chose, c'est que, ça d'accord, mais ça passait une fois avec Watto, parce que Watto, il prend pas de crédits républicains parce qu'il est sur Tatooine, et que ça va pas qu'on sort Tatooine, et que il va pas partir de sa planète. Mais Hondo Onaka ne prend pas de crédits républicains parce que, oulala, c'est trop dur d'aller faire l'échange. Tu dois avoir des bureaux de change de monnaie sur n'importe quelle planète.
Imagine,
les
pirates qui pointent dans un point d'échange et les mecs, ils te fichent direct, quoi.
Oui, mais même il est dans la République, même dans les planètes comme je ne sais pas lesquelles, mais dès qu'il reste dans la bordure intérieure et tout ça, dans les mondes du noyau, il devrait avoir Et c'est la République, donc là, normalement, les crédits républicains, ils ont cours. On peut pas me dire qu'il va pouvoir dépenser des crédits non républicains partout dans la galaxie.
Thomas, fais pas le candide, hein, les paradis fiscaux, ça existe, hein. Même dans la galaxie fort fort lointaine.
Ouais, bon, ça m'a trouvé ça un peu bizarre que ce gars-là, il refuse, quoi.
Je te dis, il a deux mains gauches.
Peut-être que c'était juste pour faire une référence à l'épisode 1, hein.
Ouais, peut-être aussi.
Bah, oui, non, mais ça, évidemment. Comment enfoncer des portes ouvertes.
Et sinon, la dernière petite truc de vrac que j'ai noté, c'est comment Hondo Onaka s'est retrouvé avec un bâton des mains Nagard.
Ah oui. Bah, il l'a peut-être volé.
Ouais, mais je vois pas Hondo combattre.
Thomas, on a besoin d'une explication.
Non, mais je me suis dit, ça m'étonne qu'un chasseur de primes ait réussi à récupérer
marché
un bâton de Magnagard.
Ah, moi, voilà, attends, Thomas est en train de trouver une explication, tais-toi. Hein.
Mais non, mais on a déjà vu des mecs qui revendaient des sabres laser, je sais plus si c'était dans KOTOR ou quoi, des mecs où, je sais plus, j'ai le souvenir de gars qui revendaient des sabres laser au marché noir. Pourquoi
ils
revendraient
pas des sabres Magnagard?
Je sais plus, j'ai plus la ref, mais j'avais ça en tête, hein.
Oui, donc c'est
d'avoir déjà vu.
C'est pas impossible, effectivement.
Ouais, mais comment le marché noir
est
réussi à se procurer des bâtons de Magnagard, Thomas?
Oh, bah, je sais pas, hein, comment t'arrives à avoir des PS3 tombés du camion ou des machins, voilà, t'as des problèmes.
Ouais, mais
de
des PS3 dans la galaxie,
non, mais bon, voilà, ok. Mais tu vois, enfin, je veux dire, il y a forcément des bugs dans les logistiques à tous les moments, donc, c'est forcément possible. Ou, je sais pas, quelqu'un qui a buté un Magnagard, j'en sais rien, quoi. T'as 10 000 possibilités, quoi.
Ah, Thomas, t'adore. Il y a un bug logistique chez les Magnagard.
Mais non, mais dans l'organisation.
Il y a un bug logistique, ils ont perdu des bâtons. Pendant ce temps-là, on dope pas. Il y a des bâtons. Il y a dû y avoir un bug logistique, c'est des
mais non, mais après, je veux dire, mais tu comment ça se passe pas lui directement. Je veux dire, après, t'as des intermédiaires, hop, tu vois là.
Ils ont des bugs logistiques aussi.
Bon, autre chose.
Tu as quelque chose à
ajouter? Non, toujours sur le bâton du Magnagard. Par contre, moi, je vais avouer un truc. J'ai trouvé un peu trop costaud quand même Hondo, parce qu'avec son bâton de Magnagard, il arrive à tenir en joue quand même Anakin Skywalker, qui est quand même un des plus grands Jedi, alors que lui, c'est un pirate wicket. C'est un peu la raclure de la société Star Wars. Non?
Pour mettre de suspense.
Ouais, mais quand même, il est un peu trop costaud, là. Franchement, je l'ai trouvé un peu trop balèze. Quand tu vois que ce mec, il tient le compte de coup, en face, et là, un vieux wicket qui passe par là, non. Là, ça m'a plus choqué, pas.
T'as tout qu'à rajouter? Ou vous voulez passer à la conclusion?
Vas-y, mon petit Henri.
La conclusion?
Oui.
Bon, ben, pour moi, l'épisode était moyen. Je l'ai pas trouvé ni formidable, ni catastrophique. J'ai bien aimé le retour de Hondo Onaka, qui m'a vraiment surpris. Il y a le chasseur de primes avec son chapeau, qui était vraiment très bien imaginé. Le petit aussi, qui m'a fait penser, comme on l'avait dit tout à l'heure, à Men in Black. Et l'histoire, justement, des fermiers qui perdent les armes, un truc classique. Donc, un épisode moyen. Alors, vas-y, Thomas.
Alors... Moi j'ai aimé plusieurs choses. Bon déjà j'annonce, je l'ai beaucoup aimé cet épisode.
Voilà.
Non mais j'annonce que j'ai beaucoup aimé cet épisode plus que le précédent. Tiens, si je devais faire une comparaison.
Ah, hérétique. Ah là là.
Point de vue différent, c'est tout hein. Donc je commence. Ce que j'ai aimé déjà.
Tu t'en vas à la fin de la saison.
Ouais, vas-y, fais ton commentaire comme ça moi je fais le mien après et puis
Non, vas-y, excuse-moi.
Merci. Premièrement, j'ai déjà beaucoup aimé les graphismes sur Felucia, au niveau de la planète, de toutes les installations qu'on a eues, puis même le fait de voir les rencors, comme tu l'as dit. Donc visuellement, j'ai trouvé ça superbe. Deuxième chose que j'ai adoré, c'était les références aux 7 samouraïs, parce que c'est un film que j'avais particulièrement apprécié. Et dernier point que j'ai énormément aimé, ça a été les chasseurs de primes, dont deux particulièrement qui sont assez géniaux, comme tu l'as dit, Henri. Et tout ça, ce mix de toutes ces choses-là, ça a fait quelque chose de vraiment sympa pour moi. Voilà.
Allez, Louis, pourri, fini.
Je me demande bien quelle va être la sentence finale pour cet épisode, voyez-vous. Alors, on va commencer par les points positifs.
Ah, il y en a quand même.
Il y en a quand même. Ouais, on a été les tirer, hein, fallait les trouver. Alors oui, des chasseurs de primes qui sont bien, visuels sympas sur Felucia. Un petit jeu sympathique de dialogue entre Ahsoka et Anakin. après que ça se termine là, hein, on a un scénario qui aura des pâquerettes, comme bien souvent dans cette deuxième saison. On frôle le ridicule quand Ahsoka apprend à tirer aux lance-pierres aux autochtones. Ça, c'est quand même fabuleux. Je crois qu'on pouvait pas arriver à un niveau de débilité aussi prononcé. Heureusement que les chasseurs de primes rattrapent le tout, et notamment notre pote avec son coup en guise de chapeau. Ça donne quand même un tout petit peu plus de crédibilité, parce que c'est pas dit, les mecs, ils arrivent à vaincre des redoutables pirates à coups de lance-pierres, c'est chaud, quoi. Voilà, à éviter. Pour moi.
Donc, ma petite conclusion, maintenant pour terminer. C'est vendredi dernier qu'a été diffusé l'épisode 218 sur Cartoon Network, qui s'appelle The Zilobist. Et donc, voici le synopsis. La nouvelle super arme de la République réveille l'effrayante bête Zilo sur Malastar. Maintenant, okay. Les Jedi doivent trouver un moyen pour contenir cette dangereuse créature. Donc, je ne sais pas pour eux.
Si vous avez un point de vue. Il paraît que ça pue, cette histoire, là.
Non, c'était pas si mal, finalement, mais on en parlera
après. J'ai pas encore vu, mais.
Ouais, j'ai, mais.
Oui, moi aussi.
Ouais, non, mais toi, c'est genre, on savait déjà que ça venait. Il est marrant, lui.
Il y a les ducks dedans, c'est génial.
Non,
on en parlera pour une fois. Allez, Louis.
Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Si vous avez des commentaires ou des suggestions très objectifs comme Thomas, contactez-nous à l'adresse studio@azw-en-direct.com. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas notre prochaine émission de l'édition The Clone Wars dans laquelle nous discuterons de l'épisode 218 de The Lobbyist. De la part de Thomas, Henri et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.